1976, vous êtes de retour dans la sauce! 96.9 Louis Vuitton, une alternative radiophonique. Oh yeah!
Oh yeah!
Et cette nouvelle saison amène de nouveaux collaborateurs. Et puis là, c'est pas n'importe quel collaborateur. Oh. Je mets la barre haute. Je suis allé chercher, t'allais puiser dans mes connaissances très profondes. T'allais voir direct à côté de chez nous. Non, pas vraiment. Mais c'est le parrain d'un de mes enfants.
Ok, c'est pas ton voisin avec la porte, là.
Salut Vincent, Xavier, bonjour!
Hey, salut, ce serait important de dire aux auditeurs aussi la raison pour laquelle je suis le parrain de tes enfants, c'est parce que je livre les publics sacs à toutes les semaines, fait qu'on a comme développé un lien de confiance, là,
ouais,
c'est
ben,
des spéciaux.
Je suis facile de même, t'écoutes, moi j'aime un visage, je l'aime vraiment. Denis, je suis pas sûr encore.
Ouais, il est pas certain encore.
Je suis beaucoup un gars de visage.
Pis, il est pas sûr, non, encore.
Puis le tien, il est trop vieux. mais sauf que, tu sais, Vincent, ben ouais, on se connaît depuis un certain nombre de temps. On se voit malheureusement pas assez souvent. Mais sauf que là, on va avoir la chance de pouvoir se jaser au moins une fois par mois. Mais avant de plonger dans une chronique, on dirait que tu te fais tuer du bétail en arrière. T'es-tu en train de faire à déjeuner ou...
Non, pas en tout. Il y a zéro son pour demain. Je suis dans une pièce isolée, seule, au monde.
Ah, OK. Ben c'était peut-être ta barbe ou quelque chose. Tu te dirais peut-être. Mais écoute, avant de rentrer dans le vif de ta chronique, qui risque d'être, oh ma foi, délicieuse.
Très pétillante, en tout cas.
Ouais, très pétillante, ça, c'est à coup sûr. T'es qui, toi? Tu fais quoi dans la vie?
Ben, dans la vie, mon Dieu.
C'est large, là.
Il est plate à poser, en plus.
Ah oui, est-ce que... Non, mais présente-toi un peu. Présente-toi. Excuse-moi. Je t'ai mal introduit.
Oui, puis je commence avec une phrase qui est assez vulgaire pour quelqu'un qui enseigne aux jeunes. Je suis un prof de maths, sciences, mais aussi un musicien d'autre part, à temps partiel, semi-partiel, des fois, pas mal partiel. Tout dépendant des aléas de la vie. Quelqu'un qui s'intéresse autant aux arts, à la culture qu'aux nouvelles du jour, qui, ma foi, depuis un certain moment, ne m'enchante guère. Puis quelqu'un aussi qui a juste un centre d'intérêt qui est assez varié et général. En fait, j'aime me faire surprendre par plein de choses que je connais pas. Puis en entendre parler avec passion finit toujours par venir me rejoindre un peu.
Mais tu vois, c'est là que je pense qu'on se retrouve. C'est assimilement pareil. J'ai pas de centre d'intérêt précis dans la vie, mais je touche un peu à tout. Mais clairement, ouais. Toi, t'as plus de talent que moi en musique, puis ça, je t'en veux un peu. Mais mis à part ça, c'est pour ça que je voulais t'avoir dans cette sauce, parce que tu peux parler d'un peu n'importe quoi, puis tu peux m'intéresser à n'importe quoi. Et lors de la première saison de la sauce, je disais que j'aime beaucoup les gens passionnés. Et bien là, je suis allé rechercher justement ce petit côté-là. Et dont Vincent, puis les prochains collaborateurs aussi, c'est du monde que j'aime ça entendre jaser. Fait que, moi, te laisser aller. Puis jase-nous, tu veux nous parler de pétillance, mais tu sais, tu veux parler de boissons, des boissons gazeuses, c'est ça?
Écoute, quand tu m'as contacté pour faire une chronique, tu m'as dit, écoute, veux-tu faire une chronique en plus? Ça fait deux, trois jours de ça, Ben. Tu dis, parle-nous de n'importe quoi. Puis, par exemple, si tu veux, parle-nous de l'histoire du bingo. Là, tu fais comme, aïe, aïe, aïe. C'est un peu comme cette fameuse phrase où on dit, pense à qu'est-ce que tu veux, n'importe quoi, mais pas à un éléphant rose, tu sais.
Un show de nuit, ça aurait passé, par exemple.
Qui est accroché dans ton cerveau, qui flash la trompe rose, tu sais. Puis, fait que je suis resté stické avec le côté histoire, mais malheureusement, déception, surtout pour la station, ce ne sera pas de bingo. Ah. Je vais vous parler plutôt de l'histoire des boissons pétillantes. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que j'ai cherché le sujet le plus con duquel je pourrais parler et auquel je me suis jamais intéressé de ma foutue vie. Puis j'ai décidé de plonger à deux pieds dans cette sauce-là.
Parfait, ça c'est bon, facile. Ça. Un liquide, ça reste une sauce. J'aime ça!
Ben c'est ça. Initialement, c'est sûr que quand on parle de boissons pétillantes, on parle à la base d'eau gazéfiée. Et oui. L'eau gazéfiée se retrouve naturellement dans certaines sources du monde. On lui a accordé beaucoup de vertus médicinales. Il y avait des croyances aussi liées à ça dans le passé. C'est juste de dire qu'il y a certaines bonnes propriétés à ces eaux-là à cause des minéraux qu'elles contiennent. Ainsi, tu sais, on disait à l'époque qu'on pouvait même soigner des maladies, que c'était bon pour la santé. Donc, qui s'est intéressé à la commercialisation de ça quand est venu le temps? Ben, c'est surtout les docteurs et les pharmaciens qui s'y sont intéressés. Or, comme tout le monde a une source d'eau pétillante à la proximité de la maison, il a quand même fallu attendre en 1770 pour qu'un certain Joseph Priestley invente une méthode pour produire artificiellement de l'eau pétillante, de l'eau gazéifiée. Et cette méthode a été améliorée en 1780, 10 ans plus tard, par un dénommé Johann Jacob Schwepp. Et on reconnaît le nom Schwepp,
ben oui, Schwepp,
des liqueurs, qui a fait la première usine à Londres à l'époque pour la production d'eau pétillante.
Puis là, il s'est inspiré de la source naturelle. Là, mais moi, je savais pas pour vrai que ça se faisait naturellement. Je pouvais quasiment avoir
dans
un arbre.
Dans certaines terres, oui, absolument. Esca, la marque Esca en est une.
C'est Perrier, c'en est. Okay. C'est quoi la seule aussi au Québec là, qui est super salée? Non, mais il y en a une qui est très, très salée. Là,
Saint-Justin.
Ouais, celle-là, puis
à Benakis aussi.
Benakis aussi, oui. Je suis entouré de spécialistes de l'eau gazeuse.
C'est dans mon domaine. Là. Tu parles de quelque chose dans mon domaine ce matin. J'aime ça.
Ah ouais, ben écoute,
je vais
peut-être avoir besoin de tes conseils parce que la Benakis, je pourrais la trouver nulle part.
Elle ne se trouve plus vraiment sur le marché du Québec, je te dirais, la Benakis.
On ne la voit plus.
Elle a pris Esca a pris un très, très gros marché. Saint-Justin est encore là aussi.
Benaki, la différence, c'est qu'elle était particulièrement salée et chargée en minéraux. Là.
Vraiment? Ben c'est un eau importée d'Italie, ça.
Ah oui, OK, je l'ignorais.
Oui.
Son nom, aux saveurs autochtones, m'ont laissé croire que ça venait de quelque part des plus proches d'ici. D'ailleurs, on nage dans un océan de clichés et ma chronique sera aussi truffée de quelques-uns d'entre eux. Donc, comme ce sont les pharmaciens qui sont intéressés à ça, tranquillement, ben surtout ceux qui ont goûté la Benakis, mettons que t'es pogné avec cette eau pétillante-là, elle a vraiment quelque chose de particulier. Donc, à cause des minéraux que les eaux contiennent, elles n'ont pas tous le même goût. La commercialisation, ben la fabrication industrielle a rendu l'eau un peu plate. Alors, au niveau des saveurs, je veux dire, assez flat. Là, pense à ta marque sans nom que t'achètes à 99 cents dans une bouteille en plastique molle. Tu vas voir que t'as pas une expérience gustative là-dedans. Donc, soit pour cacher des goûts particuliers ou pour agrémenter une eau fabriquée industriellement, ben, on a commencé à mettre des saveurs dans ces eaux-là. Mm-hmm. En 1876, à Philadelphie, Charles Hires, revenant d'un voyage de noces où il a découvert un thé particulier, a eu l'idée de mixer ça avec des fruits et des racines et est ainsi né la root beer.
Oh!
1885, un pharmacien à Waka, je sais pas c'est où, j'ai pas fait mes recherches là-dessus, je suis désolé, c'était une chronique historique et non pas géographique, a décidé de mixer des saveurs qui étaient déjà existantes d'eau minérale aromatisée et ici est né le Dr. Pepper. Un an plus tard, 1886, Dr. John S. Pemberton a inventé le Coca-Cola à Atlanta, en Géorgie. Et en 1898, 12 ans plus tard, un pharmacien qui promettait une boisson qui ragaillardit, fortifie et aide à la digestion a inventé le Pepsi-Cola, le principal concurrent de Coca-Cola.
Mais c'est sensiblement la même chose, c'est les deux, c'est la même liqueur brune ou presque.
Ça ressemble pas mal, mais au niveau des ingrédients, on voit qu'il y a quand même une bonne différence qui donne des saveurs et des textures différentes. Et ainsi, il y a des fervents défenseurs de la Ligue du Coke et des fervents défenseurs de la Ligue du Pepsi. Ici, c'est Pepsi.
Oui, mais on sait-tu, c'est quoi l'ingrédient? Qu'est-ce qui démarque vraiment les deux? C'est quoi la y a-t-il un ingrédient plus spécial que l'autre? Ou...
Ben, je peux pas te dire au niveau de la composition du Pepsi et du Coke. On comprendrait que ce sont des recettes industrielles qui sont extrêmement secrètes et préservées. Mm-hmm. Par contre, moi, je peux te dire qu'avec mon Soda Stream, chez moi, je m'en fais de la saveur de Coke. La recette est quand même assez facile à trouver sur Internet. Là, c'est pas trop exotique. Mais il y a un ingrédient particulier auquel j'aurais jamais pensé. Je ne me rappelle plus de la marque, mais dans la section au supermarché, dans la plupart des supermarchés, ça se trouve, en tout cas chez Super C, pour ne pas les nommer, il y en a, mais je pense qu'il y en a vraiment partout. Là. J'ai cru en voir par la suite. Il y a un ingrédient qui s'appelle une sauce à brunir.
OK.
C'est fait pour colorer, par exemple, les sauces brunes ou en fin de cuisson, quand tu veux te donner un kick. Puis cette sauce à brunir-là est un des ingrédients qui fait en sorte que si tu veux t'en faire chez toi, si t'as pas ça, tu y arriveras pas. Là.
Oh, ouais,
ça va donner la couleur particulière et la texture particulière. J'en ai dans la cuisine, mais c'est loin, ça ne me tente pas d'y aller.
Sauce à brunir, c'est correct.
Sauce à brunir.
Je l'ai noté ici, hein, je vais regarder ça, je suis curieux.
je t'enverrai la photo. Tu pourras mettre ça sur le Facebook pour les auditeurs. Si excellent.
Mini parenthèse, excuse-moi de t'interrompre. L'eau à Abénakis, excuse-moi, tu avais entièrement raison. Ouais. C'est l'eau au Québec qui a été retrouvée en 1882. C'est une eau qui est minérale, gazéifiée naturelle, qui était nommée en hommage à la tribu amérindienne. Tu avais 100% raison. J'ai fait erreur tantôt, désolé. On parlait plutôt les eaux importées d'Italie, c'est San Pellegrino, la marque dont je cherchais tantôt.
Ah, bon, ben on salue les autochtones d'Italie. Malgré le fait que, donc je vous rappelle les dates rapidement, là, pour tous ces liqueurs-là qui ont été à peu près dans le même groupe de 20 ans, là, 1876, 1885, 1886, 1898. Et je fais une parenthèse. Le premier dessert glacé date de quelle époque, selon vous?
De dessert glacé?
Dessert glacé?
Ouais.
À l'époque de Jésus-Christ, c'est pas Marie-Madeleine qui a inventé ça?
Non, les années 60.
Ah, non, sans blague, les années 50.
C'est 1550.
Ah, plus que ça, même, non, je reculerais dans les années 30. Moi.
Moi, je trouve ça très, très drôle ce que tu as dit parce que ça date de l'Empire romain. Hein? Je ne serais jamais attendu
non,
à ça.
Ben voyons donc.
Ben oui, puis c'est une dénommée Marie-Madeleine. Non, non, c'est pas vrai. Mais ça date vraiment de l'Empire romain.
J'ai beau
chercher comment, je vois pas comment entre deux briques pour fabriquer des aqueducs puis des pavés de route, on est capable de faire un dessert glacé. Mais écoute, l'Empire romain s'étendait sur un vaste territoire. J'imagine qu'au nord, il y avait des frigidaires naturels. Par contre, il a fallu attendre pour... puis si on va se rejoindre quelque part là-dedans. Il a fallu attendre en 1851 pour que la production industrielle soit possible de desserts glacés et ainsi la commercialisation puisse s'étendre.
Oh,
1851.
OK.
Pour faire, par exemple, je donne un exemple vraiment au hasard. Par exemple, faire de la crème de sel à la vanille. T'sais, un des premiers ingrédients que ça prend, c'est de la vanille. Mm-hmm. La disponibilité de la vanille était quand même assez pas évidente à l'époque non plus. Sa disponibilité était limitée, c'est plus le mot que je cherchais, et c'était cher aussi. Or, 1874, on a inventé un procédé pour fabriquer de la vanilline, qui est l'ingrédient le plus utilisé à ce jour encore pour simuler la saveur de vanille. Mm-hmm. C'est la même molécule qu'on retrouve dans la vanille naturelle, mais recréée en industrie. On utilisait à ce moment-là la résine d'épicéa, un arbre dans la famille des pins, si je ne me trompe pas, pour arriver à retrouver cette molécule-là. Aussi, était utilisé l'eugénol qu'on retrouve dans le clou de girofle.
Ah ben,
aujourd'hui, pour vous donner une idée... Pardon?
Du pain et du clou de girofle pour simuler le goût de la vanille, c'est ça, les molécules?
On peut retrouver dans la molécule d'épicéa, de la résine de l'épicéa, ou dans l'eugénol, la molécule particulière du clou de girofle, il y a une molécule qui permet la synthèse de la vanilline, effectivement.
Capoté. Malade.
Aujourd'hui, entre 12 et 15 000 tonnes par année de vanilline sont produites pour l'industrie alimentaire. Si on se fiait à la production naturelle de vanille partout sur la Terre, on arriverait à peine à 50 tonnes. Donc là, de 12 à 15 000 tonnes artificielles versus 50 tonnes qui pourraient être synthétisées si on ne se fiait qu'à la production naturelle. Oh. Or, depuis ce temps-là, et pour arriver à 12 à 15 000 tonnes, il y a des procédés un peu douteux qui ont été faits pour qui ont été utilisés pour synthétiser la vanilline, entre autres de la synthèse pétrochimique, l'utilisation de la lignine qui est un résidu dans les pâtes et papiers.
Hey boy, okay, bah, quand même.
On t'habitue de le fumer, de correct, même si on le mange. Ouais, hein?
On parle de la white birch, là, les moelleux, là. Sentez ça, là, dites-vous que ça pourrait faire de la vanille. L'oxydation de la curcumine, la fermentation de résidus de pulpe de betterave employés pour faire de la sucrerie, sont tous des procédés qui ont été utilisés ou qui sont encore utilisés, malheureusement, pour produire la vanille, pour pouvoir en produire autant.
C'est une parenthèse de la vanille, là, c'est bien le produit d'un orchidée, si je ne me trompe pas. C'est pas le
pistil.
Le pistil, oui, c'est ça. Ça vient de le. C'est ça.
Je pense à la vanille de l'allure, ce que tu dis là.
Tabarnouche, ça. Oh!
Ouais, il me semble que c'est. Produit beaucoup au Mexique, à Madagascar en particulier. C'est les deux endroits que je suis capable de citer de même sur le fly. Là.
Ouais, ça pousse pas n'importe donc, où des orchidées.
Non, ben pas ceux-là en particulier, tu sais. Je pense pas qu'on puisse s'en faire pour
au Mexique, jamais. Principalement, qu'on dit. Fait que vous êtes dedans, les gars. Vous êtes des fiers connaisseurs de vanille, orchidées, effectivement.
Donc, production industrielle de desserts glacés 1851, production industrielle de vanille 1874, ainsi en 1874, est né d'une maladresse, un dessert particulier, ou une liqueur plutôt particulière, était née la crème, le cream soda.
Oh!
Qui est probablement. Et je pose la question ici, ma chronique, j'avais voulu vendre le punch tout de suite, que j'allais parler du crème soda en particulier. J'aurais probablement nommé ma chronique. Est-ce que le crème soda est la mère de toutes les liqueurs? Je ne sais pas. C'est à nous d'en douter. Nous, on parle de liqueur. Je vous ai dit liqueur. Tout le monde a compris que je parlais de boisson gazeuse sucrée. Ouais. Mm-hmm. Liqueur, au sens large, on parlera plutôt de soda en France. Sucrerie. En Afrique de l'Ouest, de gazouze au Maghreb ou de sucré en République démocratique du Congo.
De gazouze, tous des noms qui se rapportent à la
gazouze. Ouais.
Je pense que c'est un nom d'instrument de musique, gazouze.
Ouais, ben, oui, ça ressemble beaucoup à ça.
Gazou.
Ben, c'est ça. C'est surtout si tu prends 3-4 grosses gorgées d'affilée, tu peux faire de la musique avec par la suite. Donc, comment est né le crème soda? Ben, il y a deux hypothèses que j'ai retrouvées un peu partout sur les interwebs. La première hypothèse, qui est pas probable, ce serait par maladresse. Okay. Un certain James W. Tuff, qui aurait, par exemple, en voulant servir de la crème glacée à la vanille à un client, aurait échappé la dite boule dans un verre d'eau pétillante et ainsi était né le flotteur, qui est probablement l'ancêtre du crème soda, finalement.
Ah, mais ça a sens et goût. Hein?
Oui. Puis le flotteur, donc, qui existait aussi déjà avant, mais mélangé à l'eau pétillante, ce serait peut-être là que ce serait né. Mais sinon, l'hypothèse la plus probable, ce serait à Philadelphie, Robert M. Green, qui servait déjà des eaux pétillantes additionnées de saveurs, de crème et de certains sirops aromatisés, un jour aurait eu une pénurie de crème. Et aurait eu l'idée de remplacer la crème par de la crème glacée fondue.
OK. Cette crème-là était aromatisée à vanille, imagine.
Probablement, oui. Et cette invention-là, ou cette idée-là, lui a rapporté beaucoup d'argent. Il avait des profits, lui, de 6 $ par jour. Et suite à l'invention de son nouveau produit avec l'eau, avec la crème glacée fondue, ses profits auraient passé à 600 $ par jour.
On s'arrachait
littéralement son invention. C'est tellement devenu populaire que dans l'endroit principal où il vendait son produit, il avait même plus le temps de faire fondre la crème glacée et ainsi renaissait de ses flocons le flotteur qui était tout simplement servi sur le dessus de l'eau pétillante et pas fondu encore.
C'est fou, tout s'explique. Et c'était en quelle année, tu sais?
1874.
Quand même.
Les deux jour, hypothèses.
Imagine, c'était de l'argent, là.
Ouais, vraiment.
C'est le salaire de Carey Price aujourd'hui.
Mais encore une fois, ce sont des inventions que j'ai retrouvées sur les interwebs. Ça vaut ce que ça vaut.
Bon, il y a quand même. C'est intéressant.
1880, à Evanston, Illinois, il s'était très mal vu de boire de l'eau pétillante et en particulier les flotteurs. Donc, dans cette ville-là de l'Illinois, on interdisait la consommation de flotteurs le dimanche.
Non, oui. On n'est pas
le dimanche.
On nous a interdit de magasiner le dimanche du pain. On n'est pas loin de ça.
Ben, imaginez-vous donc que parce que le dimanche, on ne pouvait pas vendre de flotteurs, les commerçants voulaient quand même faire de l'argent. Fait que quelqu'un qui a eu l'idée de vendre un flotteur, mais d'enlever l'eau pétillante, tout simplement. Ainsi était né le Sunday.
C'est aussi simple que ça, man.
Littéralement.
T'es malade. J'adore.
La loi du Maine aussi a été un élément particulier où on interdit la consommation d'alcool. Alors, imaginez-vous donc que la crème soda est devenue la boisson de tempérance préférée des Américains à ce moment-là. Donc, tu sais, après une grosse journée de travail, quoi de mieux que de gueuler à sa femme? « Hey, amène-moi du crème soda! »
Ça, ça te fait un action. Un vrai sucré. Rose. Les canettes, t'es-tu rose? C'est viril, ça.
Et donc, tant qu'à rester dans les États-Unis, si vous voulez vous faire une recette de crème soda maison, vous pouvez vous faire du soda à la crème italienne. Il s'agit simplement de prendre de l'eau pétillante, ou vous pouvez prendre le soda stream si vous l'avez à la maison, du sirop de vanille, et soit de la crème ou du half and half. Maintenant, les proportions sont à déterminer. C'est à votre goût. Jouez avec ça. Allez-y comme vous voulez. Imaginez-vous donc que le soda à la crème italienne est une invention américaine. Les États-Unis inventent même des boissons italiennes. On n'est pas trop surpris.
Wow! Mais moi, c'est-tu quoi? Je suis un gros consommateur de boissons gazeuses. Puis depuis que j'ai connu les Soda Stream, les fameuses machines là, avec les systèmes de CO2, à un moment donné, j'achète le fameux concentré liquide de Coca-Cola ou une McDonald's, peu importe, pour faire du Coke à la maison. Quand j'ai vu la mélasse qu'il y avait dans la bouteille depuis ce temps, j'ai diminué ma consommation de plus de 50%.
Ah ouais?
C'est dégueulasse. Le concentré, c'est de la mélasse. Ah non, c'est dégueulasse.
Ouais, mais là, il fallait pas que tu le boives peu.
Mais non, tu le mélanges avec de l'eau. Mais juste voir ça, tu dis, hein, je bois ça, même si mixé avec de l'eau, j'ai eu des gros frissons. Mais quand même.
Mais pour vrai, c'est tellement pas compliqué d'en faire à la maison. Je sais pas si tu cuisines un peu, mais si un tu peu cuisines beaucoup, un peu, les c'est pas mal moins que ça nécessite. Les épices que ça nécessite, de toute façon, tu les as probablement déjà chez vous, comme par exemple la graine de coriandre, ça fait partie de la recette. Puis après ça, c'est des agrumes, orange, citron, lime, du sucre. C'est quand même deux tasses de sucre pour produire à peu près, ça fait un litre et demi de sirop qu'on peut après ça...
Le sirop de rouge-berge, j'en ai fait un excellent. J'en fais de temps en temps avec justement c'est du thé des bois. Hein, sérieux, c'est délicieux. Ouais. Ça se fait tout seul.
Ou presque.
On trouve encore de la salse pareille et de la racine de sassafras, mais je suis pas certain, d'après certaines recherches que j'ai faites pour la racine de sassafras, il y avait des composés cancérigènes dedans. Donc, quand on vend du sassafras, je sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est un peu comme la cannelle qui est plutôt de la casse. Ouais. Mais racine de sassafras et racine de salse pareille, ce qui était consommé dans les schtroumpfs, ce sont les deux ingrédients de base de la route beer. On retrouve le crème soda sous différentes formes partout dans le monde. Puis il y a des saveurs qui sont un peu différentes aussi. Habituellement, on associe le crème soda à la saveur de vanille et à ce liquide clair et transparent qu'on connaît ici. Par contre, si on va aux États-Unis, on va retrouver à la fois des liquides clairs, des liquides brun doré, rouge, rose, orange ou bleu qui vont rentrer dans la grande famille des crèmes soda.
Okay.
Au Canada, c'est plutôt rose.
Ouais.
Sauf au Québec et à Terre-Neuve.
Ouais.
Je savais que ça ferait un silence radio, ça.
Ben ouais. Peut-être quoi au Québec, il y a quelle couleur?
Il est transparent. Du crème soda, c'est transparent.
Ben ouais, c'est vrai.
Ah ben oui, c'est vrai. Tu sais, je suis bien.
Puis à Terre-Neuve aussi qui est différent. Tu dis.
Ça. Quand les Québécois arrivent des Newfies, faut pas oublier qu'on partage quand même le même héritage culturel de couleur de crème soda.
Et voilà.
ça nous rassemble.
C'est noté.
Au Caraïbe et en Amérique latine, on retrouve surtout sous la couleur rouge et sous la marque Fanta, qui est fortement prisée là-bas. En Australie, c'est brun ou rose. En Nouvelle-Zélande, on a plutôt un liquide jaune vif. Tandis qu'en Asie, il est soit rose, vert, en forme d'étoile, à savoir de cervelle de singe ou d'air enfermenté. j'ai peut-être inventé quelques éléments là-dedans, mais voilà.
C'est l'air enfermenté, ça s'appelle la sauce Worcestershire.
La sauce poisson.
Ah, oui.
Ouais. Un bon crème soda là, à saveur de noix Nam, là, c'est excellent. Deux petites citations avant de conclure. J'ai deux éléments avant de conclure. Des citations et quelque chose d'autre par la suite. Première citation qui m'a laissé, mais ma foi, perplexe. J'ai trouvé sur thepoliticon.net. Je soupçonne ce site-là d'être un site français. J'ai pas été le chercher plus loin. J'étais déjà bouche bée quand j'ai vu cette citation-là. Et ça va aussi peut-être créer un autre silence radio ou un éclat de fou rire, je ne sais pas trop.
Okay.
Il est écrit, je paraphrase, « J'ai demandé à des amis canadiens de décrire le goût du crush crème soda. Ils ont répondu, rose vif, saveur rose. »
Silence radio.
Rose vif.
Saveur rose.
C'est description quand même... du goût, c'est ça?
Ouais. Les Canadiens, ils décrivent le goût du crème soda de cette façon-là.
Donc,
c'est bien connu.
Donc, la couleur est un goût.
La couleur est un goût.
Il semblerait, puis bon, là, on comprend. <C'est ça. rire> On comprendrait qu'ils ne se sont pas adressés à des Québécois ou à des Terre-Neuviens, là, parce que ce rose vif, saveur rose, c'est le reste du Canada. C'est
drôle de définition. Hein?
Moi, c'est ça. Ça amène un peu le même malaise que le Gad Elmaleh là, avec son sketch récemment là, dans l'émission de cuisine française ou la pub de la compagnie Orange. Tu sais. Mm-hmm. Mais je me suis dit avec ça, peut-être que les Français, c'est pas de leur faute. Peut-être que c'est nous qui leur disons n'importe quoi, parce que c'est comme tout ce qu'on dit. Mais parlant de clichés et de malaise liés à des choses qui semblerait-il se disent, tout à l'heure, quand j'ai parlé de sucré, sucrerie, gazeuse ou soda, excusez-moi si c'est pas vrai, si c'est un autre cliché, j'ai encore cru ce qu'on m'a dit. Une autre citation du détracteur constructif que j'ai vraiment adoré. Qui peut dire qu'il a eu sa vie gâchée à cause du soda mousse? Voilà qui prouve que c'est l'icône le plus rassembleur de tous les temps. J'adore.
Non. On ne peut pas y reprocher quoi non. que ce soit, lui. C'est...
Non. Pour conclure, je voulais juste vous dire que le 12-pack de canettes chez Canadian Tire était à 8 et 9. Il y en a malheureusement zéro stock à Le Bourgneuf. Il y en a deux à Passepébiac, trois à Cap-de-la-Madeleine, un à Pointe-aux-Trembles, un à Longueuil et un à Matane. Mais ce serait préférable d'appeler pour vérifier les stocks avant de vous déplacer.
Aïe, malade.
Aïe, merci Vincent, Xavier, c'est un pur plaisir. Écoute, j'ai juste hâte à ta prochaine chronique le mois prochain. Encore un grand merci. Vous allez pouvoir retrouver cette chronique-là segmentée parce que, oui, cette saison-ci, on fera ce travail de tout vous segmenter pour aller facilement retrouver le contenu. Merci encore mille
merci,
fois,
Vincent.
C'était
fort
vraiment
intéressant.
Très le fun.
Fort intéressant.
Ça me fait plaisir.
Reste en onde parce que moi, je vais avoir des questions de liqueur à Guillaume tantôt. On va rire, je pense.
Bonne journée, man.
Salut.
Hey, vous êtes toujours dans la sauce. Ben, on vient d'entendre Vincent Xavier. T'es très content, sérieusement.
Ouais, vraiment.
Content, je m'attendais pas à ni plus ni moins que de rire avec lui. Fait que, on va aller faire une petite pause musicale. Au retour de la pause, ben, on va avoir bien sûr le délicieux ô combien animal John Grizzly.
Ah oui.
S'il est là ou s'il est pas là. On le sait pas.
Peut-être qu'il n'est pas parti maintenant.
Il est peut-être pas parti. S'il est comme nous autres, il est pas loin. Il est encore. Mm-hmm. Écoute, il est peut-être venu de venir à pied. On se retrouve de l'autre côté de cette courte pause musicale.
Oh.